France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Fini les coups de pouce pour les candidats au bac, consigne de la ministre de l'Éducation nationale à quelques jours de la rentrée. Les profs, eux, aimeraient pouvoir être plus exigeants, mais au moment de la correction, explication à suivre. Emmanuel Macron qui soutient la démarche de son Premier ministre deux jours après l'annonce du vote de confiance. Nous verrons cela. Les conséquences économiques de cette décision à 13h30. L'un de nos meilleurs économistes, Mathieu Plane, sera là pour vous répondre. 01 45 24 7000 pour vos questions, notamment sur la dette. Les subventions publiques qui se tarissent, cela a des conséquences pour les femmes.
Les premières permanences qui ferment, en général, c'est dans la ruralité. Et c'est dans la ruralité que les féminicides, le taux de féminicide est le plus élevé. On a 50% de féminicides qui ont lieu dans la ruralité.
Alerte lancée ce matin par les associations de défense des femmes que nous écouterons. 13h50, c'est la France. Nous retrouverons Eric Fotorino. Il a fait une expérience, il vieillit et il nous raconte. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, 6e saison, Tina Arena, demande le chanteur Ozière, avec Frédéric Pommier bien sûr. Voilà, vous avez le programme d'un 13-14 encore perturbé par le mouvement de grève à Radio France. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Les correcteurs des copies du bac étaient-ils trop peu exigeants avec les élèves? En tous les cas, la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, annonce pour cette année scolaire que les notes ne seront plus remontées aussi facilement que par le passé. Entretien au journal Le Parisien aujourd'hui en France. Bonjour Sonia Princey.
Bonjour.
La ministre y donne l'exemple de candidats qui peuvent avoir leur bac avec seulement 9,5 de moyenne. Est-ce que ça arrive? Vous avez contacté ce matin des profs.
Alors, on va faire un peu de mathématiques, Jérôme. Pour avoir le bac, avec tous les coefficients, il faut un minimum de 1000 points sur 2000 au total. Si vous avez 9,5 de moyenne, c'est 950 points. Mmh. Il en manque donc 50. La ministre annonce que ce ne sera plus possible d'obtenir ces 50 points supplémentaires, mais c'est en réalité très rare. Dans les faits, les jurys fixent une barre à partir de laquelle ils ouvrent le livret scolaire pour voir les appréciations de l'élève, et ce seuil, selon les jurys, se situe plutôt à 15, 20 ou 25 points manquants, mais rarement au-delà.
Pas 50.
Si l'élève a été sérieux, s'il a été longuement malade au cours de l'année ou s'il redouble, les jurys peuvent faire preuve de clémence, mais ce n'est absolument pas automatique. Un lycéen souvent absent sans raison, peu travailleur, n'avait déjà aucune chance de décrocher son diplôme avec des points de retard.
En revanche, sur ce sujet, les profs aimeraient que les consignes soient plus strictes, mais avant, au moment où ils corrigent les copies.
Oui, les enseignants se plaignent de barèmes trop généreux, de critères de correction très souples par rapport à ce qu'ils pratiquent dans l'année avec leurs élèves. Et les professeurs qui corrigent les copies du bac ont parfois la surprise de constater que les notes qu'ils ont attribuées sont remontées d'un point et demi, sans qu'ils soient consultés.
Ouais.
L'harmonisation des notes entre les jurys, entre les académies, se fait beaucoup trop à la hausse et de façon opaque, selon eux. C'est plutôt ce qu'il faudrait changer.
Merci Sonia Princey, spécialiste des questions d'éducation à la rédaction d'Inter. La ministre qui était ce matin autour de la table pour un conseil des ministres de rentrée. Un peu étrange avec un président de la République de retour de ses vacances à Brégançon et un Premier ministre à qui les oppositions conseillent d'ores et déjà de boucler ses valises à 12 jours du vote de confiance à l'Assemblée. Mais Jérôme Valle, le président en appelle à la responsabilité des partis.
Oui, à deux reprises ce matin, nous assure-t-on, Emmanuel Macron a commenté la situation politique, apportant un soutien total à, je cite, un acte courageux, mais sans parler du camp du chaos, comme l'a fait François Bayrou depuis lundi, ni même d'une éventuelle dissolution. Explication de texte avec Sophie Prima, la porte-parole du gouvernement.
Il n'a pas du tout été question de scénario post 8 septembre. On a beaucoup parlé de combativité et on a beaucoup parlé de nécessité jusqu'au 8 septembre de convaincre. Il n'a pas été question de l'après 8 septembre du tout. Donc le terme exact, c'est ni délit de réalité, ni catastrophisme.
Un gouvernement, malgré tout, en sursis et des projets, eux aussi, dans le flou. Plus d'une dizaine de textes devaient être déposés en cette rentrée. Tout est gelé, reconnaît un conseiller ministériel. Mais la porte-parole, elle, veut croire que rien n'est remis en cause.
Elisabeth Borne va assurer pleinement la rentrée des classes. Manuel Valls va faire perdurer le comité de rédaction sur la loi constitutionnelle pour la Nouvelle-Calédonie. Les discussions vont continuer avec les syndicats. Bien sûr, nous continuons le travail. Nous ne pouvons pas mettre la France à l'arrêt.
Un agenda présidentiel également dans le brouillard. Rien n'est fixé à partir de ce week-end. Aucune visibilité, lâche-t-on, dans le camp du chef de l'État. Mis à part un conseil des ministres la semaine prochaine, il en reste peu, ironisé, un peu découragé. lui confie un proche d'une ministre.
Jérôme Valle à l'Élysée pour Inter, le gouvernement qui a communiqué ce matin les dates des prochaines élections municipales. À vos agendas, elles se tiendront ces élections les 15 et 22 mars 2026. Alors quelle que soit l'issue de cette crise politique, sauvetage in extremis de François Bayrou, nouveau gouvernement, voire dissolution, le grand flou politique a des conséquences pour l'ensemble du pays. Nous verrons dans une minute que les associations de défense des femmes maintiennent leur alerte au Premier ministre sur leur budget. Et puis, il y a les entreprises qui ont besoin de stabilité. Luc Chemla s'est entretenu avec des patrons.
Garder la tête froide, maintenir le cap, telles sont les priorités actuellement de Guillaume Richard. Mais le président de WeCare, groupe de services à la personne qui compte 20 000 salariés en France, se dit tout de même préoccupé.
Si l'économie française, de façon générale, va pas bien, notre entreprise, elle ne peut pas aller bien.
Or, l'instabilité politique guette et risque d'impacter l'économie, déjà dans une situation délicate. Et qui dit incertitude, dit potentiel ralentissement de la consommation et donc baisse de certaines de ses activités.
Sur les services de la vie quotidienne, la garde d'enfants, le jardinage, le ménage. Nos clients peuvent arbitrer et faire le choix d'économiser plutôt que de consommer.
De son côté, Christian Masse est le président de Sotis Paris, une marque de cosmétiques.
En France, je dirais, on n'a pas attendu ça pour s'inquiéter, mais c'est un peu la cerise sur le gâteau.
Surtout que s'ajoute la hausse des droits de douane de Donald Trump pour l'entreprise qui fait 20% de son chiffre d'affaires à l'export aux États-Unis.
Ce qui, au niveau de l'état d'esprit, est un peu perturbant, c'est vraiment l'accumulation, que ce soit en France ou à l'international, qui fait que déjà on n'a plus de visibilité. Et surtout, on deviendrait presque parano à se dire ça va être quoi le prochain pépin quoi.
Et à court terme, ce qu'il redoute, c'est un éventuel blocage du pays le 10 septembre.
Bloqué tout le 10 septembre, lui est contre l'eurodéputé Place Publique Raphaël Glucksmann. Le dit ce matin, il ne faut pas bloquer plus un pays qui l'est déjà. Fin de citation. Toutes vos questions sur la dette, les risques pour notre économie. 01 45 24 7000, l'économiste Mathieu Plane avec nous à 13h30. Elle avait écrit au Premier ministre au début de l'été pour dénoncer les coupes budgétaires mais aussi la baisse des subventions par certaines communes et départements. Les associations de défense des femmes expliquent aujourd'hui qu'elles doivent renoncer à une partie de leurs actions. Bonjour Lou Bourdi.
Bonjour.
Elles disent avoir réduit leurs activités de 50%.
Oui, réduire les activités tout simplement parce que les associations ont dû cette année licencier du personnel. Des juristes ont été renvoyés, mais aussi des psychologues et moins de personnel. Eh bien, ça veut dire des permanences qui ferment.
Pour les 150 associations qui ont répondu, c'est déjà 6200 femmes qui ne pourront plus être accompagnées par ces associations. Je suis Laura Slimani, directrice du pôle projet de la Fondation des Femmes. C'est des fermetures de permanences, notamment en milieu rural et dans les Outre-mer, mais aussi partout en France. On a 72% des associations situées en milieu rural qui ferment ou qui réduisent des créneaux de permanence.
Et c'est le cas dans plusieurs départements, dans la Drôme, les Pays de la Loire ou encore dans le territoire de Belfort, majoritairement en zone rurale, ce que regrette la directrice des centres d'information des droits des femmes et des familles.
Malheureusement, les premières permanences que les CIDFF ont dû fermer, et on a 25%, donc un quart de nos associations qui ont fermé les permanences, les premières permanences qui ferment en général, c'est dans la ruralité. Et c'est dans la ruralité, justement, malheureusement, que les féminicides, sur le taux de féminicide est le plus élevé. On a 50% de féminicides qui ont lieu dans la ruralité, alors même que 30% des femmes françaises vivent dans la ruralité.
Et les associations le disent, le contexte politique actuel les inquiète davantage parce qu'elles redoutent de voir encore la cause des femmes passer au second plan.
Merci Lou Bourdi. L'affaire des quatre cadavres retrouvés dans la Seine près de Paris a choisi le roi. Un homme est mis en examen depuis ce week-end, soupçonné de quatre meurtres. Eh bien, on a appris ce matin qu'un nouveau corps avait été retrouvé ces dernières heures dans la Seine. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Mais pour l'instant, les enquêteurs ne font pas de lien avec cette affaire.
Il est impossible, avec les seules premières constatations, d'établir un lien avec les quatre corps retrouvés dans la Seine le 13 août dernier, a choisi le roi, confié ce matin le parquet de Créteil. D'abord parce que ce corps en décomposition a été récupéré hier par la brigade fluviale à 8 km en aval à Charenton-le-Pont, tout près de Paris, près d'une écluse. Alors que les quatre corps récupérés le même jour, il y a deux semaines, étaient tous dans la même zone, à quelques dizaines de mètres près. Alors est-ce que ce corps, lui, a dérivé, ne s'est pas retrouvé coincé dans les branchages qui bordent la Seine? C'est ce que les enquêteurs devront établir. On sait juste qu'il s'agit d'un homme, mais il n'avait aucune pièce d'identité. Il n'avait pas non plus de lésions apparentes pouvant évoquer des violences. Tout cela en attendant des analyses toxicologiques et l'autopsie, bien sûr. Ce sont les enquêteurs du commissariat de Charenton-le-Pont qui ont été chargés de cette affaire. Pour l'instant, l'instant, alors que c'est la police judiciaire du Val-de-Marne et la brigade criminelle parisienne qui enquêtent sur le suspect mis en examen le 24 août dernier pour meurtre en concours.
Merci Emmanuel Leclerc. J'ajoute qu'à Marseille, le conducteur d'un scooter âgé de 20 ans est mort la nuit dernière après un accident qui faisait suite à un refus d'obtempérer. Information de l'agence France-Presse il y a quelques minutes. Je vous parlais du Conseil des ministres. Le président de la République, Emmanuel Macron, y participait ce matin. Il prend ensuite l'avion dans l'après-midi pour la Moldavie, pays situé entre la Roumanie et l'Ukraine. Déplacement avec le chancelier allemand et le Premier ministre polonais. Tous trois veulent soutenir ce pays face aux menaces et ingérences russes. Fin de citation. La Russie, qui se dit défavorable à un éventuel envoi de troupes européennes en Ukraine en cas d'accord de paix entre Kiev et Moscou. Donald Trump, lui, préside aujourd'hui une réunion à la Maison-Blanche sur l'après-guerre à Gaza, quand l'armée israélienne dit à l'instant que l'évacuation de la ville de Gaza est, je cite, inévitable. Et cette guerre, il en est aussi question à Venise, en Italie, où le festival du film La Mostra débute ce soir, sous la pression, Bruno Duvic, d'un collectif nommé Venice for Palestine.
Interdire de festival deux comédiens accusés de soutien à l'armée israélienne. C'est d'abord ce que demandait le collectif, et d'une certaine manière, il a obtenu gain de cause, choix délibéré ou renonciation, même si le festival s'était opposé à toute censure. Les acteurs, dont l'ex-Miss Israël et Wonder Woman Gal Gadot, ne viendront pas. Hier, lors de la soirée de pré-ouverture, le directeur artistique a partiellement répondu à l'autre demande, une prise de position claire de la Mostra sur la guerre à Gaza. « Nous sommes impuissants face à un massacre que rien ne peut justifier », a déclaré Alberto Barbera. Cet appel à une prise de position avait été signé par 1500 personnes, dont de grands noms du cinéma italien, de Marco Bellocchio à Matteo Garrone, en passant par Tony Servillo. Le collectif aura-t-il accès au tapis rouge ? Ce n'est pas exclu. Une manifestation est, quoi qu'il en soit, prévue samedi. La guerre à Gaza sera aussi sur les écrans avec la voix d'Ind Rajab en compétition officielle. Histoire de cette petite fille tuée par un tir israélien en janvier 2024.
Bruno Duvix, qui nous amène aux sorties cinéma de ce mercredi.
Moteur !
T'as de bons yeux, tu sais.
C'est tout joli, mes fesses.
Avec vous, Alexis Demeyer. Bonjour Alexis.
Bonjour Jérôme.
Ravi de vous retrouver chaque mercredi. On va commencer par un film français intitulé Le Roi Soleil.
Donne-moi le ticket, fils de pute ! Calme-toi ! Tu braques des flics, t'as pété les plombs !
Un huis clos étouffant dans un bar PMU de Versailles, voilà ce que nous propose le réalisateur Vincent Maël Cardona après son premier film Les Magnétiques et sa mini-série De Grâce. L'histoire, c'est celle d'un vieux monsieur qui gagne 300 millions au loto mais qui est immédiatement braqué. Manque de chance pour le braqueur, deux policiers en civil sirotent une bière au comptoir. Les différents protagonistes vont ensuite se refaire le film et nous avec, dans un récit en zigzag qui peut dérouter. Le Roi Soleil réunit en tout cas un casting principal. Pio Marmaille, Sofiane Zermani, mais aussi Maria de Medeiros et Panayotis Pasco.
Autre coup de cœur, La femme qui en savait trop, film iranien.
Cette femme qui en savait trop, c'est Tarlan, une prof de danse à la retraite qui tente d'obtenir justice après le meurtre de sa fille. Problème, le principal suspect est protégé par le gouvernement de Téhéran. Le cinéaste Nader Saïvar trouve le tempo idéal pour ce drame particulièrement poignant et c'est son ami Jafar Panahi, lauréat de la dernière Palme d'Or à Cannes, qui signe le scénario.
Vous avez été moins convaincu par le thriller américain Prise au piège.
Oui, ce neuvième film de Darren Aronofsky, le réalisateur de Black Swan et de Requiem for a Dream, relève selon moi plus de l'esbrouf que de la prouesse.
La pistola, either I get what I want.
Hank, interprété par Austin Butler, est un barman new-yorkais qui se retrouve bien malgré lui pourchassé par plusieurs mafias locales. On ne sait pas trop ce qu'Aronofsky veut nous raconter ici. C'est en tout cas pour lui l'occasion d'additionner scènes d'action, violence, musique à fond et humour noir façon frère Cohen, mais sans leur talent malheureusement.
Merci Alexis Demeyer. Le temps.
La météo avec la MAE. À l'école ou en vacances, l'assurance scolaire MAE protège vos enfants par tous les temps. MAE, grandir avec assurance.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
28 départements sont en vigilance. Orange pour les orages.
Oui, prudence. Du sud-ouest aux régions de l'est, averses et orages circulent. Alors orages parfois violents dès cet après-midi du massif central vers le nord de Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, puis jusqu'au Grand Est ce soir. Et une deuxième vague orageuse intense gagnera ce soir le sud-ouest, puis le Languedoc-Roussillon, les Alpes et la Provence dans la nuit. On a attend des pluies intenses, de la grêle, hein, parfois de gros grêlons et de fortes rafales de vent. Du nord-ouest au nord de la Seine, c'est plus calme avec des éclaircies appréciables, mais de nouvelles pluies, parfois orageuses, de la Bretagne à l'ouest de la Normandie. Et puis les températures baissent, hein, souvent 22 à 27 degrés, mais encore 28 à 33 sur un quart sud-est.
Élodie Calac, Météo France, on va se retrouver à partir de 13h30 avec notre invité, l'économiste Mathieu Plane.
France Inter, 16h-18h, Mathieu Noël.
La France est-elle devenue le nouvel Eldorado des narcotrafiquants? Le nouveau Pablo Escobar sera-t-il Limougeau? Dijon est-il le nouveau Tijuana? Ce mercredi, zoom sur la mexicanisation de la société française.
Zoom Zoom Zen, à 16h, un mot du moment, et à 17h, toute l'actu du jour avec humour.
En raison d'un appel à la grève déposé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de Radio France contre la stratégie éditoriale et les réformes menées par la direction dans un contexte d'économie, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.
C'est papa qui donne, on dit merci. Perfect.
petit garçon qui a marché dans la rue. Il connaît côté sorti, il pas con côté allé. Petit garçon, aimé avec une fille, il s'est là abandonné. Qu'on qui ça pour faire. Oh bon Dieu, Balila délivrance, si garçon en souffrance, vraiment n'est pas de chance. Aïe aïe aïe,
Inter.
J'ai débuté ma carrière dans un hold-up audacieux. Il y avait de la cervelle par terre, les flics étaient très nerveux. Continuer dans un boxon, dans le slip d'une souris, puis passer dans le ceinturon d'un marchand de paradis qui se fit dézinguer plus tard, mais ça, c'est une autre histoire. C'était un tueur à gages, car on disait ses fins de mois. C'est pas que dans ce boulot-là, on soit souvent en chômage. Surtout que par les temps qui courent, la liberté et l'amour travaillent pour la République. Comité d'action civique. Je me suis multiplié chez un type assez bizarre qui travaillait tard le soir à la plume et au pochoir. Voyager dans des mallettes, dans des fourgons, des tablettes, dans des jeans ou de la soie, en jaguar et en matin. Je suis même passé dans vos poches, grippé par vos doigts crochus. J'étais même au PSU, au parti et à minute. Avant de faire un culbute dans les poches de Lavilliers, ouais, mais ça n'a pas duré. J'ai dormi chez des prélats, entre deux doigts d'arnica, trois bons mots, une caresse, au vicaire et sur les fesses. Je suis le pouvoir d'achat, je suis
suis celui qui décomplexe. Je suis le dernier réflexe qu'on n'est pas prêt d'oublier. Essayez de me supprimer dans un coin sur la planète. Il y en a qui feraient une drôle de tête. Il y en a même qui en sont morts. Aliéné des dans le décor. Je suis passé sous les tables. J'ai glissé sur des tapis. Dans des poches confortables, j'ai pris un peu de répit. Dans les mains d'un mercenaire, puis dans la révolution, j'ai participé, mon frère, à des tas de combinaisons. Si tu savais ce que je sais. Dans quelles mains je suis passé. Tu t'en ferais pas beaucoup pour ta petite éternité. J'ai voulu me racheter. Mais voilà, j'étais trop cher. Depuis que les financiers mettent mes vertus aux enchères. Depuis que les poètes maudits comptent leurs économies. Je suis une pute tonnerre d'acier, je sais tout mais je dirai rien. C'est peut-être préférable pour l'idéal républicain. J'aimerais crever, tu sais. J'aimerais qu'on me foute la paix.
Kiss me each morning for a million years. Hold me each evening by your side. Tell me you love me for a million years. Then if it don't work out, then if it don't work out, then you can tell me goodbye. Sweeten my coffee with a morning kiss. Soften my dreams with your sigh. Mm-hmm. And after you've loved me for a million years, then if it don't work out, then if it don't work out, tell me goodbye. If you must go, baby, I won't grieve, but just wait a lifetime before you leave. Mm-hmm. Then if you must go, I won't tell you no, 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 but just so that we can say we tried. Oh, baby, tell me you love me for a million years. Then if it don't work out,
France Inter, il est 13h30.
France Inter.
le 13-14. Jérôme Cadet.
La suite de ce 13-14 avec notre invité. Bonjour Mathieu Plane.
Bonjour.
Vous êtes économiste, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. François Bayrou a mis avant-hier le sujet de la dette publique de la France, plus de 3 000 milliards d'euros sur la table, avec l'annonce d'un vote de confiance à l'Assemblée nationale sur ce thème. Et depuis, c'est un déluge de constats, d'analyses, de prévisions. Les unes très alarmistes, les autres rassurantes. Et on vous a invité pour essayer d'y voir clair. Autant que possible, donc c'est le moment pour les auditeurs de ce 13-14 d'appeler. Vous êtes déjà nombreux, 01 45 24 7000. Vous passez également via l'application Radio France. Mathieu Plane, vous avez écouté François Bayrou avec attention. Lundi après-midi, je voudrais vous rafraîchir la mémoire. Constat très sombre, le Premier ministre a notamment dit ceci.
Depuis 20 ans, chaque heure a augmenté la dette de 12 millions d'euros de dette supplémentaire. La dépendance à la dette est devenue en France chronique. Et cet argent emprunté, il a été utilisé pour les dépenses courantes. Dépenses courantes qu'aucune famille pour elle-même n'envisagerait de laisser à la charge de ses enfants.
A-t-il dramatisé ou bien a-t-il raison sur le fond ?
Bon, d'abord, le constat, il peut être discuté. C'est-à-dire que, effectivement, la dette augmente. Déjà, parler en millions d'euros courants, c'est pas très rationnel, parce que nous, on rapporte au PIB. C'est-à-dire que si le PIB augmente plus vite que la dette...
La richesse qu'on produit chaque année.
Voilà, exactement, qui est en fait l'activité générée, qui va nous permettre d'avoir des ressources fiscales pour rembourser cette dette. Donc, effectivement, la question, c'est est-ce que la dette augmente plus vite que ce PIB ? Et parler en euros courants, ça ne veut pas dire grand-chose hein, d'un point de vue économique. Ce qui est vrai, c'est qu'en
l'occurrence, la dette progresse plus vite que le PIB.
Alors, elle a augmenté beaucoup plus depuis 2008, en fait. Et parce qu'on a eu des chocs économiques, macroéconomiques assez gigantesques. Hein, ça commence 2008 avec la crise financière, les subprimes. Après, on a eu une crise des dettes souveraines dans la zone euro. Et puis après, on a la crise Covid. Et puis, on a la crise énergétique. Donc, tout ça a accumulé de la dette. C'est vrai que ça a accumulé de la dette, mais qui était un choix d'éviter que les économies s'écroulent. En réalité, la dette, ça permet de jouer le rôle d'assureur.
Sauf qu'entre les crises, on ne fait pas diminuer cette dette.
Alors, le problème, c'est qu'on passe effectivement des escaliers. Hein, c'est des marches d'escalier. Et là, aujourd'hui, on a un niveau de dette qui est particulièrement élevé, qui pose problème. Ce n'est pas le niveau de dette, c'est le niveau de déficit, en fait. Ce niveau de déficit aujourd'hui ne permet pas
de... On précise la différence, Mathieu Plane. Le déficit, c'est chaque année, en fait.
Exactement. La dette, c'est l'accumulation des déficits passés. Le déficit, c'est sur une année, c'est l'écart entre les dépenses et les recettes. Or, aujourd'hui, on a plus de dépenses que de recettes. Pour 5,5 points de PIB, c'est à peu près ce qu'on devrait avoir cette année. Le problème, c'est que ce niveau de déficit ne permet pas de stabiliser le niveau de dette rapporté à l'activité économique, rapporté au point de PIB. Et donc, il va falloir faire un effort budgétaire pour stabiliser à minima cette dette.
À tel point que le Premier ministre a dit avant-hier, la charge de la dette va devenir cette année le budget le plus important de la nation. C'est-à-dire ce qu'on paye pour les intérêts de notre dette va représenter plus d'argent, par exemple, oui, que le budget de l'éducation nationale. Est-ce que c'est vrai, ça ?
Alors, j'ai pas regardé en détail, oui, mais ça va être certainement vrai que la charge d'intérêt va passer dans les premiers postes de dépenses, mais j'allais dire, une fois de plus, ce qui compte, c'est de savoir est-ce que c'est le ratio par rapport au PIB. Par exemple, en 2007, ce qu'on avait comme charge d'intérêt rapportée au PIB, c'était à peu près 3 points de PIB. En 2007, alors qu'on n'avait que 60 et quelques points de PIB de dette. Aujourd'hui,
on donnait chaque année 3% de la richesse qu'on produit.
Donc on était déjà le premier poste.
Pas pour rembourser, juste les intérêts.
Juste les intérêts. Ouais. Donc c'est les charges d'intérêt liées à ce stock de dette. En fait, on a quand même bénéficié d'une baisse de taux d'intérêt très forte. Et même si ça remonte aujourd'hui, ça doit représenter un peu plus de 2 points de PIB. C'est-à-dire que la charge d'intérêt qu'on affecte au budget chaque année est inférieure à celle de 2007, alors même qu'on a plus de 110 points de dette publique. Donc pour le moment, j'allais dire, on n'est pas dans un moment critique sur la charge d'intérêt. Le problème, c'est que cette charge d'intérêt va être amenée à augmenter avec la remontée des taux d'intérêt. C'est-à-dire que tout ce qu'on a bénéficié dans le refinancement de notre dette par le passé, c'est-à-dire avec des taux très proches de zéro, nous a coûté peu cher. Or, aujourd'hui, cette dette, il va falloir la renouveler. Et que les taux, aujourd'hui, sont plus élevés que ce qu'ils étaient il y a une dizaine d'années, progressivement. Donc, on est sorti de cette période de taux zéro. Et donc, c'est vrai que le coût va augmenter. Et ça, c'est problématique, parce qu'effectivement, ça limite nos marges de manœuvre.
Alors, sur les causes, François Bayrou a aussi expliqué d'où venait cette dette. Et il a mis en cause, au fond, la responsabilité de nous tous, la responsabilité de l'ensemble des Français.
Cela me permet de rappeler à tout le monde que la dette, ce ne sont pas les gouvernements qui la consomment. Cette dette colossale, elle a été, année après année, consommée en dépenses courantes et en protection de nos concitoyens. Et la vérité, c'est que la dette, c'est chacun d'entre nous.
Est-ce que c'est juste, Mathieu Plane ?
Alors, il y a plusieurs choses. Comme je disais, la dette, elle a servi à sécuriser l'économie, quelque part. On l'a vu pendant le Covid, avec les transferts qui ont été très importants. On l'a vu avant avec d'autres crises financières. En fait, ce qu'on voit, contrairement à peut-être ce que dit François Bayrou, en réalité, depuis 2017, parce qu'en 2017, on a un déficit qui est en dessous de 3% du PIB. Et donc là, on n'était pas dans une situation budgétaire qui était très inquiétante. On était à 2,5 ou quelque chose comme ça. Il a fortement augmenté depuis 2017, mais aussi parce qu'il y a eu beaucoup de mesures de baisse de fiscalité de prélèvement, dont on parle assez peu, qui n'ont pas été financées. Ce n'est pas tellement l'explosion de la dépense publique en point de PIB, c'est plutôt la baisse de la fiscalité des prélèvements en point de PIB qui marque...
Par exemple, suppression de la taxe d'habitation
qui était d'abord pour 80%, après qui a été pour tous. On a eu la baisse de l'impôt sur les sociétés de 33 à 25, la baisse des impôts sur la production.
La redevance
La suppression de la redevance. Le renoncement à la hausse de la taxe carbone. Alors tout ça, ce ne sont pas des mauvaises mesures. C'est pas des mauvaises mesures.
En tout cas, ça a un impact évidemment
mais
sur les recettes.
Elles n'ont pas été financées. Elles n'ont pas été financées et c'est des mesures permanentes. C'est-à-dire que chaque année, il y a un manque à gagner. La question du financement s'est très peu posée parce qu'on était dans des moments de crise. Or, aujourd'hui, on est un peu en train de payer l'addition.
Vous nous dites que c'est parce qu'on ne perçoit pas, parce que l'État ne perçoit pas assez d'argent. Est-ce que c'est pas un problème de dépenses? Que l'État ne dépense pas trop d'argent public?
Voilà,
dépense beaucoup d'argent public?
Oui, alors on a toujours eu un modèle social qui fait que la dépense publique en France, c'est plus importante qu'ailleurs. C'est un choix de société. On voit, les retraites ne sont pas par capitalisation, elles sont par répartition, elles sont mutualisées. C'est vrai en partie pour la santé, l'éducation. Donc on a une dépense publique qui est plus forte que l'autre. Et donc des prélèvements plus élevés. C'est des choix de société. La question, c'est si on baisse les prélèvements pour des questions de compétitivité, de pouvoir d'achat ou autre, alors à ce moment-là, il va falloir ajuster la dépense publique. Ce qui n'a pas été forcément fait. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire? Et aujourd'hui, j'allais dire, en sortie de crise, en fait, on est un peu au moment où on a la facture qui arrive et qu'il faut régler, et on ne sait pas exactement comment on va la régler.
Toujours sur les causes, vous dites, bon, ça a fortement augmenté depuis 2008, mais au fond, ça avait déjà augmenté un peu avant, avec des gouvernements centristes, avec des gouvernements de gauche, avec des gouvernements de droite. Est-ce que ça veut dire que la responsabilité politique, elle est partagée, que la dette, elle augmente de la même façon, au fond, quel que soit le parti qui est au pouvoir?
Oui, d'ailleurs, on peut regarder, les épisodes de consolidation budgétaire ne sont pas forcément de droite ou de gauche. Le dernier ajustement budgétaire qui a été fort, ça a été sous François Hollande.
Ça veut dire quoi, ajustement budgétaire?
C'est-à-dire les périodes, alors on parlait d'austérité ou de restrictions budgétaires, de redressement des comptes publics à marche forcée, si vous voulez. C'est pas la croissance qui baisse les déficits, c'est que vous êtes obligé d'augmenter les impôts ou de couper dans la dépense. Bon, bah,
la dernière fois, on a fait cet effort, c'était
entre deux. Alors ça a commencé sous la fin de Nicolas Sarkozy, mais après c'est François Hollande jusqu'en 2014-2015. On voit d'ailleurs un tournant assez important sur la fiscalité. Avant, on a eu la période Juppé de 95 à 97. Donc, je veux dire, au fond, il y a une responsabilité collective, mais la dette en soi n'est pas mauvaise si elle est bien gérée, si elle est soutenable, si elle sert à investir ou à limiter les effets des crises.
Alors, sur les conséquences, hier, ici même à ce micro, le ministre de l'économie, Éric Lombard, a dit ceci. Avant de rétro-pédaler quelques heures plus tard, la question de Benjamin Duhamel était la suivante. Y a-t-il un risque de mise sous tutelle de la France par le Fonds monétaire international, le FMI?
C'est un risque qui est devant nous. Souvent, on me dit dans telle ou telle émission, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme l'Espagne ou le Portugal? Mais en Espagne ou au Portugal, c'est effectivement le FMI, la Banque Centrale Européenne et la Commission.
Donc, c'est un risque que le FMI intervienne si d'aventure la situation financière se dégrade.
C'est un risque que nous souhaitons éviter, que nous devons éviter, mais je ne vais pas vous dire que le risque n'existe pas.
Je ne peux pas vous affirmer que le risque d'une intervention du FMI n'existe pas. Bon, il est revenu sur ses propos un peu plus tard, conscient de la tempête qu'il avait déclenchée. Le ministre de l'économie, Mathieu Plane, vous en pensez? C'est quoi?
J'en pense qu'à court terme, il n'y a pas le risque d'une intervention
du FMI.
Non, tutelle du FMI. Il faut voir que le dernier cas, c'est la Grèce, notamment, qui a été sous tutelle du FMI, qui ne peut plus se refinancer sur les marchés.
Ça veut dire quoi, concrètement?
Ça veut dire que l'État ne peut plus s'endetter, ne peut plus avoir des investissements sur les marchés, ne peut plus emprunter directement sur les marchés, parce que les taux sont tellement élevés que ça devient prohibitif, et donc il faut trouver d'autres financements. Et donc là, c'est le FMI qui va intervenir, ou la Banque Centrale Européenne, pour aider. Mais par contre, c'est jamais gratuit. C'est en contrepartie d'un programme d'ajustement général budgétaire qui est extrêmement sévère. On voit ce qui s'est passé notamment en Grèce.
J'allais dire, donc c'est quoi ? C'est on coupe dans les retraites ?
Alors c'est tout.
Dans le salaire des fonctionnaires ?
C'est la hausse de la TVA, vous coupez dans le modèle social, sur les retraites, sur les remboursements de santé, sur la CSG, vous ne pouvez pas tout passer.
On privatise la SNCF.
Si vous devez trouver 10 points de PIB, par exemple, comme nous, ce n'est pas notre cas, hein, attention.
Ah,
hein.
Bien sûr.
Nous, on cherche plutôt 3 points de PIB. La Grèce, c'était plus de 10 points de PIB à trouver. Donc on est vraiment dans une situation très différente. Et la Grèce avait un problème, c'est peut-être un peu technique, mais problème de financement extérieur. C'est-à-dire qu'elle avait des besoins de financement extérieur très forts. Ce qui n'est pas de la cas de la France. En fait, la France a un gros déficit, mais a beaucoup d'épargne. Et donc ça sécurise en fait la situation française, en réalité. Donc c'est pour ça qu'on
l'épargne des Français.
Oui, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire que structurellement, l'économie française n'est pas en souffrance comme la Grèce. Notre problème, il n'est pas fondamentalement économique. On a un problème budgétaire, mais il n'est pas fondamentalement économique. Le problème, il est politique. C'est-à-dire que la crise politique ouvre un champ des possibles qui est inimaginable. C'est ce que craignent les marchés, en fait. C'est qu'on ne peut pas se projeter dans l'avenir et qu'en fait, on se projette au jour le jour, au mois le mois. Et ça, c'est très problématique.
Instabilité qui inquiète les marchés. On a vu que les taux d'intérêt de la dette avaient augmenté après la conférence de presse du Premier ministre lundi. On paye cette dette plus cher. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, était invité d'Inter hier. Et justement, sur la hausse de ces taux d'intérêt, voilà ce qu'il a répondu. Mise en garde sur ceux qui possèdent cette dette.
Je rappelle que les 3000 milliards dont nous parlons, ce ne sont pas les nôtres. Ce sont ceux des investisseurs à 60% étrangers. Je leur recommande d'être prudents avec les Français. Car si, par un biais ou par un autre, ils s'amusaient à vouloir nous mettre en banqueroute, c'est eux qui ont payé l'addition, pas nous.
Avant de vous faire réagir, Mathieu Plane, je voudrais accueillir Edmond. Bonjour Edmond. Bonjour Edmond. Oui, vous êtes en direct. Bienvenue, merci d'être avec nous. Je crois que vous avez une question. Sur ce point, justement.
Bonjour à tout le monde. Et je voudrais savoir, une question toute simple et brève, je voudrais savoir quels sont nos créanciers de cette dette, à qui doit-on tout cet argent et comment les milliards qu'on leur doit et qu'on leur rembourse, où ils vont, est-ce qu'ils reposent sur une valeur comme de l'or ou voilà, je ne sais pas si vous avez compris bien ce que je voulais
c'est
dire.
C'est parfaitement clair, c'est limpide. Merci Edmond de votre appel de Vendée. Mathieu Plane, Jean-Luc Mélenchon disait à l'instant, oui. Les investisseurs sont à 60% étrangers.
Oui, alors il y a une partie étrangère, une partie qui est détenue par la Banque Centrale aussi européenne, hein, qui nous appartient quelque part. Hein. Il y avait d'ailleurs un débat sur l'annulation possible ou pas de cette dette.
On sait la partie qui est détenue par la BCE, parce que c'était la question de Richard.
Oui, je crois
de la
que c'est à peu près, je veux dire comme ça, mais j'ai 20 ou 20, une vingtaine de pourcents.
Une vingtaine
je crois,
de pourcents, d'accord.
Je crois, de l'ordre de grandeur, hein, je ne voudrais pas dire de bêtises. Après, il faut savoir qu'il y a les étrangers, les investisseurs étrangers, et il y a nous, en réalité, hein, nous ménages, c'est-à-dire que quand vous avez de l'épargne et de l'assurance vie, si vous les sécurisez votre épargne, en général, dans votre épargne, vous avez des titres de dette publique. Donc la charge d'intérêt payée par l'État revient aussi en partie aux Français qui détiennent ces titres du Trésor.
Autrement dit, c'est pas la même chose que cette dette soit détenue par des investisseurs français ou par des investisseurs étrangers ?
Non, d'ailleurs, on a le cas, par exemple, japonais qui est assez significatif de ce point de vue-là. La dette publique rapportée au point de PIB la plus élevée du monde, c'est celle du Japon, hein, qui est à 250% du PIB. Hein. Nous, je rappelle, on est à 113. Donc c'est deux
et
fois...
Il n'y a pas ce débat au Japon ?
Le taux est très bas parce qu'en fait, l'ensemble des Japonais détiennent leur propre dette.
Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas ce débat.
Et donc il y a moins le risque de fuite de capitaux des investisseurs étrangers qui viendraient à ne plus acheter des titres de dette. Mais attention, la France reste quand même, malgré tout, j'allais dire, une valeur refuge sur l'échiquier mondial. On est la deuxième puissance économique de la zone euro. On n'a pas une balance courante déficitaire, on a beaucoup d'épargne, on a quand même... Voilà, un tissu productif relativement puissant. On a les premiers pays européens en termes d'investissement, attractivité étranger, d'investissement étranger. Donc attention, on n'est pas la Grèce ou l'Argentine de ce point de vue-là, même si on a une vraie problématique budgétaire et politique aujourd'hui. Mais attention,
on joue un peu à se faire peur.
On joue à se faire peur parce que la politique nous fait peur. La politique nous fait peur. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas de gouvernement. Enfin, on a un gouvernement, mais on ne sait pas s'il va passer le mois de septembre. On ne sait pas quel est le budget. On sait qu'on va devoir retrouver à peu près une centaine de milliards d'euros d'un point de vue budgétaire d'ici la fin de la décennie. Et on n'a pas le début de la solution.
De discussion ou d'un compromis sur les mesures à trouver. Juliette est en direct avec nous. Bonjour Juliette.
Bonjour.
D'où nous appelez-vous ?
Je vous appelle de Paris, voilà.
Merci de votre appel, nous vous écoutons.
Je voulais savoir simplement quelle serait... d'abord si la France peut se relever assez vite, et d'après monsieur l'économiste, si quelles mesures essentielles et prioritaires seraient nécessaires, voilà.
Merci Juliette pour votre appel. Mathieu Plane.
C'est quasiment un programme politique là.
Notez que les programmes politiques ne se bousculent pas au portillon avec un plan détaillé pour réduire la dette.
Non, ce qui est important, c'est qu'il va falloir trouver un consensus politique sur le chemin à trouver. Et ce qui est difficile, c'est de trouver ce chemin de crête. C'est-à-dire dire qu'il va falloir faire des efforts budgétaires, qu'il faut qu'ils soient partagés le mieux possible entre les ménages et les entreprises, qu'au sein même des ménages, que la contribution ne soit pas toute la même en fonction de la situation sociale. C'est vrai aussi entre les grosses et les petites entreprises. Et attention, il ne faut pas aussi que ce redressement des comptes publics se fasse au détriment de notre industrie, de notre croissance, de notre marché du travail. Donc il faut aussi faire en sorte d'avoir un ajustement qui soit soutenable, qui soit de mesure à sécuriser les investisseurs étrangers en disant la France ne fait pas n'importe quoi et que quand on prête à la France à 10 ou 15 ans, on est sûr qu'elle va rembourser. Et en même temps, il ne faut pas tout sacrifier d'un point de vue budgétaire parce qu'on risque d'avoir des effets récessifs très mauvais. Mais j'allais dire, ça, c'est presque la théorie. Le problème, c'est que politiquement, maintenant, il faut mettre en place un certain nombre de mesures et surtout, avoir une stratégie de moyen terme. Aujourd'hui, on a des stratégies qui sont ultra court-termistes à cause des questions politiques. Or, redresser les comptes publics, ça va prendre plusieurs années et il faut avoir un ajustement progressif étalé sur plusieurs années et donc à une feuille de route qui permettent de déterminer tout ça. Et ce qu'on n'a pas, bien sûr, aujourd'hui.
Et on l'a bien compris, et si l'issue se vérifie le 8 septembre, la France l'aura encore moins. Merci Mathieu Plane d'avoir été avec nous aujourd'hui, l'invité de ce 13-14. 13h46 sur Inter. Une semaine dans leur vie, c'est notre feuilleton. Et toute cette semaine, nous traversons entre Quiberon et Belle-Île-en-Mer, dans le Morbihan, pas en ferry, mais en catamaran. Ça fait 5 ans que la compagnie Les Iliens y transporte des passagers. Mais se passer du moteur n'est pas si facile. Nous suivons à bord Sarah Guibaudot avec les voyageurs et l'équipage.
Alors, mesdames et messieurs, pour l'instant, vous avez noté qu'effectivement, on a mis notre grand voile, mais qu'on n'a pas encore pu couper les moteurs. On est un peu proche du vent, c'est-à-dire que le vent nous vient un peu trop de face pour avoir une vitesse qui nous permet de respecter nos horaires. Donc pour l'instant, on va faire un petit compromis qui est de faire grand voile moteur. Donc ça nous permet quand même d'économiser du carburant. Et ensuite, on essaiera de se faire une fin toute à la voile dans le silence. Donc guettez le vent.
Le défi est d'arriver à utiliser au maximum la force du vent pour avancer et respecter les horaires. Les moteurs, finalement, on en a besoin quand il n'y a pas de vent, quand il n'y en a pas assez, ou du vent de face, puisqu'un catamaran ne remonte vraiment pas très bien au vent. Donc voilà, c'est plus comme à l'époque de Flaubert, où on prenait le bateau, puis on arrivait quand on arrivait, et on partait quand on partait aussi, quand le bateau était rendu. On est sur d'autres contraintes aujourd'hui, mais on peut prendre le temps de se déplacer autrement. Donc c'est le fait d'accepter aussi que la liaison, enfin le trajet, puisse durer un peu plus longtemps que les ferries moteurs. Alors on vient de couper les moteurs, on s'est écarté un petit peu du vent parce qu'on a un meilleur angle et on déroule notre voile d'avant qui est un type de foc en direction de Sauzon.
Cette traversée, c'est vraiment un moment de calme, très familial. On est très content puisque aujourd'hui la météo est belle, le soleil brille. On a la petite brise qui commence à souffler. Hein. Les marins le connaissent très bien, ce vent, c'est le vent thermique qui se met en place généralement après 14 heures. Et ça nous permet de faire de la voile sur l'après-midi. Et ça, c'est formidable. Alors j'ai grandi à Paris, mais j'ai eu la chance de pouvoir faire du bateau avec mon père. Depuis que j'ai 6 ans à peu près, tous les étés, on les passait sur le petit bateau familial. Et c'est ces expériences enfants qui m'ont donné le goût de la mer. Je suis resté à Paris pour ma première activité professionnelle. J'ai créé mon entreprise à l'université. Et à un moment, l'appel de la mer a été trop fort. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que je voulais devenir marin. Et ce diplôme-là est assez rapide à obtenir, hein, puisqu'en 3 mois de formation, on peut aller travailler sur les bateaux. C'est un diplôme de matelot. Et j'ai trouvé un embarquement en Normandie. Je me suis installé à Granville, où j'ai pêché les homards et les bulots pendant quelques temps, avant de me rapprocher de Léon, mon associé actuel, pour lancer le projet Ilien.
L'idée, c'est peut-être pas de concurrencer le ferry. Pour le moment, là, il n'y a pas grand monde à bord par rapport à ceux qui prennent le ferry de l'autre côté.
L'idée n'est pas de remplacer du jour au lendemain les ferries qui emmènent les passagers vers les îles, mais petit à petit, la question va se poser et le ferry sera de toute façon un jour différent de celui qu'on voit aujourd'hui. Et pourquoi pas mettre un mât sur un ferry avec une voile, hein. C'est vraiment vers ça qu'on veut aller. En lançant notre affaire, pour ouvrir une voie et montrer que finalement c'est possible d'utiliser le vent pour transporter des passagers.
Il y en a d'autres qui le font ailleurs, vous le savez?
Il existe plusieurs lignes, telles que celle qui fait Lorient-Groix, l'entreprise Sailcop qui exploite des bateaux déjà en Méditerranée et depuis peu de temps entre Concarneau et les Glénans. Et donc toutes ces compagnies qui sont arrivées finalement en suivant l'exemple qu'on a montré, viennent montrer à elles aussi que finalement le transport de passagers à la voile est possible.
La voile comme moyen de transport sur l'eau. La suite demain.
France Inter, le 13-14.
13h50, c'est la France. Le mercredi, le regard d'Éric Fotorino du 1 Hebdo. Bonjour Éric.
Bonjour Jérôme.
Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Vous allez nous livrer votre regard sur le pays, sur les Français, chaque mercredi. Avec un jour de retard, je vais vous souhaiter un excellent anniversaire.
Ah, c'est adorable, merci
cher
beaucoup.
Cher Éric, vous avez soufflé quelques bougies hier. Je vous laisse le soin de nous dire le nombre dans quelques minutes. Et tout cela vous a inspiré.
Et oui, à une journée près, en effet, cher Jérôme, vous alliez me faire travailler le jour de mon anniversaire. Car soudain, hier matin, c'est bien le chiffre de 65 qui s'est inscrit à mon compteur personnel. Pas celui de mon vélo, je ne roule pas aussi vite, hélas, même en descente. Mais sur le calendrier des années qui voit s'éloigner de plus en plus la côte d'où je suis parti, je parle du 20e siècle, et approcher le moment où passer le premier quart du 21e siècle, je commence sans trop y penser, mais en y pensant tout de même à compter le temps qui reste. L'avenir n'est que du présent à mettre en ordre, m'a glissé hier en guise de joyeux anniversaire Julien Bisson, le jeune cadra qui à présent pilote le 1 Hebdo, citation bien sentie de l'éternel Saint-Exupéry. Mmh. Sans doute une allusion habile au fatras qui règne sur mon bureau, pas si éloigné d'une chambre d'étudiant.
Alors qu'est-ce que vous avez ressenti 65 ans bien sonné, cher Éric, avec tout le respect que je vous dois.
Alors voilà Jérôme, non, je ne suis pas sonné, mais plus le temps passe et plus je trouve les autres jeunes. Et vous le premier chaque mercredi à ce micro. Et travaillant depuis des années avec des bien plus jeunes que moi, j'ai parfois l'impression d'être un de ces professeurs qui ne se sont pas vus vieillir à force de côtoyer rentrée après rentrée des auditoires toujours renouvelés de jouvenceaux. Et puisque grâce à Dieu, ou à mon vélo plus sûrement, mon corps tient encore le coup, j'ai cette chance, me réveillant le matin sans douleur notable, de ne pas trouver de différence trop marquée entre mes 20 ans et aujourd'hui. Bon. La vieillesse approche sans aucun doute et mes versions latines m'avaient prévenu « Omnia ora vulnerant ultima necat ». Le grand latiniste que vous êtes a traduit « Toutes les heures blessent, la dernière tue ». Certes, certes, mais en attendant, et je ne suis pas pressé, il me semble camper depuis hier dans la jeunesse de ma vieillesse.
Alors qu'allez-vous faire de ce rab de jeunesse ?
Et on redemandait. Je me souviens de ce texte, paraît-il apocryphe, mais si beau, attribué à l'écrivain argentin José Luis Borges. « Si je pouvais de nouveau vivre ma vie, dit-il, je tâcherais de commettre plus d'erreurs et je prendrais très peu de choses au sérieux. Je gravirais plus de montagnes, je courrais plus de risques, je nagerais dans plus de rivières et je jouerais avec plus d'enfants. C'est, je crois, le pendant du temps rétréci, maintenant que la ligne d'horizon qui s'était toute ma vie dérobée à mon regard a fini par se rapprocher, impossible maintenant de la faire s'éloigner. » Elle est bien là. Alors, j'ai un immense appétit de vivre, de voyager, d'aimer, de partager, d'échanger, avec l'obsession de dilater chaque journée, chaque instant, comme celui-ci, pour en faire une source de joie. Et puis, curiosité oblige, je garde le goût immodéré de découvrir ce que je ne connais pas, en un mot, d'apprendre.
Et voilà une bonne transition avec le thème du numéro de rentrée du 1 Hebdo.
Et oui, Jérôme, à quoi sert d'apprendre ? Telle est la question un brin, pauvre provocatrice, que nous posons, et pas seulement à tous les jeunes qui reprendront bientôt le chemin des classes et des amphis, nous essayons avec les meilleurs spécialistes de montrer pourquoi l'IA ne peut prendre notre place pour lire, pour réfléchir, pour ressentir. Plus on mettra d'artificiel dans la connaissance, plus la patte humaine restera essentielle pour vivre pleinement nos vies.
Commettre plus d'erreurs, courir plus de risques, je retiens le conseil. Merci Éric Fotorino du 1 Hebdo. À mercredi prochain de C'est la France. Ah, c'est une chanson, sixième saison avec vous. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Jérôme.
Immense plaisir de vous retrouver aussi. Et avec une star aujourd'hui, une star australienne, la chanteuse Tina Arena.
Tina Arena qui fêtera l'an prochain ses 50 années de carrière. Oui, elle a commencé à se produire sur scène toute petite à l'âge de 8 ans. Pour l'occasion, elle donnera en octobre 2026 une douzaine de concerts en France, dont un le 26 octobre, salle Pleyel à Paris. Et c'est la chanson « Take me to church, emmène-moi à l'église » qu'elle a souhaité que l'on écoute, un tube de l'artiste irlandais Osier.
C'est un mec qui est vachement dans son monde. C'est pas quelqu'un qui va vers la publicité ou la promotion. C'est quelqu'un plutôt calme, tranquille, mais un vrai musicien en fait.
Il n'est pas trop dans l'industrie
non.
musicale.
Non, c'est un artisan. C'est ce que j'aime beaucoup.
Et d'ailleurs, ses premières chansons, il les a fabriquées dans son grenier.
C'est dingue, hein. Ouais. Écoute, ces chansons que je l'ai entendues la première fois, ça m'a fermé complètement. It stopped me in my tracks. C'est-à-dire que j'ai arrêté, j'ai dit « Wow, c'est quoi ça ?» L'arrangement, l'harmonie, la tonalité, la mélodie, la manière qu'il parlait, racontait l'histoire. En fait, c'était spirituel pour moi. C'était comme un moment religieux, en fait, pour moi. La première fois, je l'ai entendu. Ça m'a vraiment arrêté dans mes pattes. Ça m'a épaté, c'est ça. Et j'ai eu des frissons directs.
Et ça, c'est quelque chose qui vous arrive souvent ?
Non, pas du tout. Ah non, mais pas du tout. Ça, c'est très rare.
My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes, she tells me worship in the bedroom.
C'est en 2013 qu'est sortie cette chanson, Frédéric.
Et c'est également pour son texte que Tina Arena l'aime autant.
Take me to church, amène-moi à l'église. Et à l'église, pour moi, ça peut être n'importe quelle église. C'est ça ce que j'aime, en fait. Take me to church is take me inside. Laisse-moi rentrer dedans, de me poser des questions moi-même, à mon intérieur. Mon église à l'intérieur.
Elle ressemble à quoi, votre église intérieure ?
Oh, mon église à l'intérieur. Oh là là, il y a pas mal de portes là. Écoute, mon église, l'intérieur, c'est une église qui demande l'authenticité. C'est ça qu'il demande en fait. Pas la perfection, mais l'authenticité.
Est-ce qu'il y a des moments dans votre vie où vous avez eu l'impression de ne pas être authentique ?
Bien sûr. Dans la cinquantaine, maintenant, je commence vraiment à être à l'aise dans ma peau, dans moi-même, dans mes choix, les bons, les mauvais, les moyens, d'être juste honnête avec tes intentions.
Mais vous avez l'impression qu'il vous a fallu tout ce chemin, finalement, pour vous trouver vous-même ?
Absolutely. Oui, oui, oui. Mais c'est un parcours particulier dans la musique. Et quand tu commences très, très jeune, comme moi, j'étais une gamine, j'avais 8 ans. C'est pas facile.
Une chanson comme ça, ce serait quoi les conditions idéales pour l'écouter, d'après vous ?
Idéalement, c'est de l'écouter en vinyle, dans une maison assez calme, tranquille, avec aucune interruption. Back to basics, voilà, là il faut être vraiment à l'ancienne. C'est ça la manière d'écouter cette chanson.
C'est une grande chanson pour vous ?
I think it's a modern classic, yes. Bien sûr. Il n'y en a pas tant que ça.
Take Me to Church, Osier. C'était donc, Frédéric, le choix de Tina Arena.
Tina Arena qui sera en tournée en France en octobre 2026 à l'occasion de ses 50 ans de carrière.
Merci Frédéric et à demain, à suivre sur Inter. La Terre au carré, Mathieu Vidard, Les enfants et la nature. Et juste avant, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan nous parle de la bombe sur Hiroshima.